voir office renégat. C'était du Shakespeare. Le régisseur, notez-le, avait conçu son plan tout à fait indépendamment de Don Jaime, contrairement à ce que certains esprits mal intentionnés insinueraient par la suite. José et Juan se postèrent plus haut, à hauteur du champ des Murcia, en sentinelle, couché dans l'herbe, derrière un muret de pierre, chacun armé d'un fusil de chasse et attendant, fébrile, l'arrivée des gardes d'assaut. Diego et les quatre jeunes communistes qui d'ordinaire l'escortaient s'étaient dissimulés derrière la maison des Asnar, tous armés de fusils et ceinturés de grenades et prêts à cerner la maison du Péqué derrière laquelle les phalangistes étaient embusqués. L'attaque se produisit lorsque les véhicules des gardes d'assaut arrivèrent à hauteur des phalangistes, aussitôt rejoints par José Juan et le petit groupe commandé par Diego. On sait qu'il y eut des cris, des hurlements, des bousculades, tout un affolement. On sait que des obus éclatèrent, que des balles furent tirées au petit bonheur, que des ordres et des contre-ordres furent donnés, qu'une fumée épaisse empêcha de voir qui tirait sur qui. On sait qu'il y eut, pour résumer, une immense confusion. 6 hommes furent abattus. Le régisseur et 2 de ses hommes furent faits prisonniers. Juan, Diego et 3 de ses assistants furent épargnés. Les gardes d'assaut repartirent indemnes. José fut touché en pleine poitrine par un coup de feu dont l'origine ne put jamais être établie. Jeté brusquement à terre, il tâta la plaie indolore qui ouvrait sa poitrine, regarda ses doigts pleins de sang, murmura dans une colère désespérée « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» essaya de bouger ses jambes qui restèrent inertes, voulut crier « Juan » sans en trouver la force, et appela au secours des images aimées qui ne vinrent jamais. Il entendit des détonations, de courtes rafales, des cris de douleur, des jurons, de lointains aboiements. Puis les coups de feu peu à peu s'assourdirent. Tous les bruits peu à peu s'assourdirent. Et il se sentit glisser lentement dans quelque chose de tiède, de fade et d'envahissant. Seul face au ciel immense, sans une main amie, sans un regard d'amour, « solito como la una ». Ma mère ici essuie une larme. Lorsque le bruit des armes eut cessé, Diego appela José plusieurs fois, le rechercha dans une angoisse atroce et découvrit son corps étendu, immobile, sur le sol glacé. Il se pencha sur lui, passa doucement son bras sous sa tête, la souleva, puis la reposa, impuissant. Avant de rentrer chez lui, il envisagea un instant de cacher la mort de José à Monse. Il ouvrit la porte. Il était livide. Monse vit aussitôt sur le visage de son époux que quelque chose de terrible avait eu lieu. Que s'est-il passé? Diego resta muet. Monse, follement inquiète, lui reposa la question. Devant le silence de Diego qui se prolongeait, elle dit d'une voix vide, « Mon frère. » Diego, sans la regarder, lui dit « Oui. » Monse s'appuya sur le mur pour ne pas tomber. Trois jours après, on enterra José et tous les villageois suivirent le cortège. La mort de celui que l'avant-veille, il est qualifié encore d'écervelé, de farfelu, d'irréaliste et de déséquilibré, suscita leurs regrets unanimes et une grande variété de gémissements. José, dans le village, devint le regretté José. Monse sombra dans un chagrin immense, un chagrin qui la rendit effroyablement absente et effroyablement insensible, si effroyablement insensible qu'elle ne réagit plus aux nouvelles de la guerre qui était loin d'être fameuse, et ne répondit plus au sourire de Lunita ni aux gestes affectueux que lui prodiguaient les siens. Elle cessa de rendre visite à sa mère, qui n'arrêtait pas de gémir. « Ah, si mon rocher était là pour manger des figues! Ah, s'il était là pour ci! Ah, s'il était là pour ça !» et de renifler son chagrin en toutes occasions pour la plus grande délectation de ses voisines. Elle cessa de chanter.